Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la radio de l'IUT Littoral Côte d'Opale en direct du studio Gaco de Saint-Omer. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette émission, accompagnée de mes collègues Léa Ouspi. Bonjour.
Bonjour.
Camille Normand. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et notre technicienne Maëlys Ringot.
Bonjour.
Nous sommes réunis tous en forme afin de vous parler du thème de la culture, plus précisément de la vision de la photographie de Robert Coppa, mais aussi l'histoire et la symbolisation du tatouage.
Merci Mélissa. Donc, comme elle vous l'a dit, je vais vous parler de la vision de la photographie selon Robert Coppa. Donc, si une photo n'est pas bonne, c'est qu'elle n'est pas prise assez près. Voilà ce que nous laisse Robert Coppa. Mais au fond, nous sommes tous des photographes avec nos smartphones. Mais nous, ce sont vraiment nous de la qualité? Robert Coppa, de son vrai nom André Ernaud Friedman, était d'origine hongroise. À l'âge de 17 ans, il a été arrêté pour avoir participé à des activités politiques d'étudiants de gauche. Le régime politique autoritaire de l'Arminal Horthy le libère à condition de quitter son pays natal. Il part en juillet 1931 pour Berlin. Et grâce à son amie Eva Besnio, il trouve son premier petit job comme apprenti développeur dans une agence de photographie berlinoise. Puis il suit parallèlement des études de sciences politiques à Deutsch, où il est le photographe le plus connu. Il est parti en Espagne pendant la guerre civile pour photographier des soldats. Il est aussi parti couvrir la guerre d'Espagne opposant les républicains aux troupes franquistes. Ses photos sont très célèbres et ont fait le tour du monde. Il est venu aussi photographier le débarquement du 6 juin 1944.
Oui, Léa, vous expliquez un peu sa biographie, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que Robert Coppa est devenu célèbre?
Eh bien, Robert Coppa a pris une photo pendant un combat lors de l'attaque. Il a mis son appareil sur sa tête et a pris une photo comme ça et l'a envoyée sans même la voir. Ce qui a fait qu'il est devenu très célèbre. La photo la plus célèbre qu'a pris Robert Coppa est celle de la mort d'un soldat républicain où l'on voit qu'il s'est fait toucher par une balle et qu'il tombe par terre dans un paysage désert. Donc cette photo aurait été prise par hasard. À son retour, il est devenu très célèbre.
Ah oui, d'accord, c'est quand même extraordinaire. Mais des personnes n'ont pas contesté ces photos? Cela était peut-être faux?
Eh bien si, dans les années 70, deux journalistes anglais ont mis en doute la photo de Robert Coppa. Pour eux, elle n'était pas vraie, ils soupçonnaient que cette photo n'était qu'un montage. Donc le débat reste toujours ouvert. Le combattant serait Federico Bordel Gracia, un anarchiste combattant dans les rangs républicains durant la guerre civile de l'Espagne. Des publications récentes ont été démontrées que cette photo n'aurait pas été prise sur le champ de bataille de Cerro Moriano, mais à proximité de Espejo. Mais cela n'atteint pas la réputation de Robert Coppa, il reste quand même célèbre.
Ah oui, d'accord, c'est quand même quelqu'un de très important, mais il a couvert que la guerre civile en Espagne?
Eh bien non, Robert Coppa a couvert 5 conflits majeurs. Donc la guerre civile d'Espagne, l'invasion japonaise de la Chine, la Seconde Guerre mondiale à travers l'Europe, la guerre israélo-arabe en 1948, puis la guerre d'Indochine.
On peut encore trouver les photos de Robert Coppa?
Eh bien oui. Afin de préserver ces célèbres photographies de Robert Coppa et d'autres photographes, son frère Cornel Coppa a fondé le International Fonconessed Photographie en 1966. Puis en 1974, à New York, il a fondé le International Center of Photography pour donner à cette collection un endroit permanent pour les préserver. Ensuite, il fonde avec ses amis Henri Cartier-Bresson et David Seymour une agence de photos Magnum, la première entreprise internationale des photographes autonomes. Robert Coppa décide alors plus tard d'interdire aux reporters de son agence de couvrir les guerres lorsqu'il se rend compte que les photos des vedettes et de mode rapportent beaucoup plus et sans le moindre risque. Il a couvert la guerre d'Indochine où il trouve la mort à 40 ans pendant la guerre d'Indochine en marchant sur une mine en voulant prendre une photo d'ensemble des soldats français. Il s'est écarté du chemin où progressaient les soldats français et met le pied sur une mine. Il a été tué sur le coup par l'explosion. Robert Coppa disait toujours que ainsi la guerre est comme une actrice qui vieillit, de plus en plus dangereuse et de moins en moins photogénique. Donc la France lui décerne alors la médaille de la Croix de guerre. Robert Coppa est toujours au cœur de l'action. Ses photos sont floues, mais c'est ce qui fait la force et l'émotion. Il a eu une grande perte au moment du débarquement de Normandie. Il était au milieu des soldats, dans les mêmes conditions qu'eux. Une personne maladroite, dont on n'a pas la connaissance, détruira 80% des photos prises ce jour-là.
D'accord. Merci beaucoup, Léa, de nous avoir fait cette présentation et de nous avoir parlé un peu de la photographie. Nous sommes pas toujours au courant de ce qui a pu se passer pendant la guerre, et c'est très important pour nous de savoir comment cette culture s'est développée. Maintenant, on va pouvoir passer au tour de Camille, qui va nous parler du tatouage.
Merci Mélissa. Le corps momifié d'un chasseur datant du néolithique présentant sur lui des signes de tatouage a été découvert en 1991. C'est le plus vieux être humain tatoué retrouvé à ce jour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment incroyable.
C'est vrai, c'est quand même fabuleux. Et puis, ce n'est pas vieux, hein, 1991...
Oui, mais le chasseur datait du néolithique, donc tout ce qui était de ce qui datait de la préhistoire. Donc c'est vrai qu'on a pas vraiment souvent l'impression que le tatouage c'est un art ancien, alors que bah si, on le voit bien par ses découvertes.
Tout à fait.
Alors pourtant, même si le tatouage est recensé au sein d'une multitude de civilisations différentes, les significations de ces tatouages ne sont pas identiques. Le tatouage fut d'abord une marque de rang social élevé au sein des tribus polynésiennes. Cet art avait pour but d'accroître la fécondité et les liens avec les esprits des défunts, leur tatouage totem étant le fruit de leur réincarnation après la mort. C'était également un rite de passage au sein de la communauté polynésienne, une tradition essentielle à laquelle aucun homme ne pouvait déroger. Et oui, à cette époque, la tradition était au cœur de la civilisation. Ces premiers tatouages n'étaient pas effectués à l'aide d'aiguilles comme on pourrait le penser, mais d'un manche en bois sur lequel étaient fixés des objets ordinaires tels que des morceaux de nacre et sur lesquels on tapait à l'aide d'un marteau.
Ah oui, d'accord. Mais est-ce que le tatouage n'a pas eu un aspect plus sombre ?
Si, bien sûr. Par la suite, la symbolique du tatouage a divergé et les nombreux gangs et criminels se les sont appropriés en vue d'inscrire sur leur peau les souvenirs de leurs crimes passés. Ainsi, au Japon, au XVIIe siècle, les tatouages servaient à punir les criminels, alors que de nos jours, les Yakuza, gangs japonais, les arborent fièrement afin de démontrer leur dévotion à ces organisations criminelles par le traditionnel irezumi, qui recouvre leur corps en intégralité. Aux États-Unis, il était également monnaie courante pour les criminels et membres de gangs de revêtir ces tatouages, symboles de leur caste et indicateurs des méfaits commis. Alors que le tatouage 1488 symbolisait l'appartenance à la suprématie blanche, donc 14 pour les 14 mots d'une citation de David Lane, leader nazi, et le 88 pour la 8e lettre de l'alphabet, à savoir le H, répété deux fois pour Heil Hitler. Donc franchement, moi ça me révolte d'avoir des trucs comme ça, parce que je me dis que l'art du tatouage n'a pas été bien représenté par l'utilisation de ces... à des fins criminelles. Ensuite, il y a eu la couronne à 5 pointes qui démontre l'appartenance de l'individu au très célèbre gang basé à Chicago prénommé les Latin Kings, tandis qu'une larme tatouée en dessous de l'œil sera le témoignage d'un meurtre commis. Donc comme je disais, l'assimilation de ces crimes horribles au monde du tatouage me choque par ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me choque.
Ouais, si, parce que la première image qu'on a eue du tatouage, c'est quand même quelque chose d'assez criminel.
C'est ça. C'est le plus gros préjugé en ce moment, c'est que le tatouage est assimilé à quelque chose de négatif.
Ah, ça renvoie tout de suite à une image qui n'est pas forcément la bonne à l'heure d'aujourd'hui.
Oui. Et le milieu carcéral russe n'échappe pas à la règle et il détient ses propres significations en matière de tatouage, puisqu'un détenu possédant un tatouage de la Vierge Marie et d'un enfant, ça symboliserait son passé criminel depuis sa plus tendre enfance, alors que le serpent autour du cou témoignera de l'addiction du prisonnier à la drogue. L'utilisation de l'art de tatouage par ces nombreux gangs et criminels ont entraîné une stigmatisation de cet art.
C'est bien, Camille, tu parles de la mauvaise vision du tatouage qu'on ait pu avoir, mais quelle est la vision du tatouage aujourd'hui ?
Donc encore aujourd'hui, à cause de cette utilisation négative du tatouage, des pays comme le Japon ne voient pas d'un très bon œil cet art ancestral assimilé aux Yakuza et aux crimes organisés japonais. Et de ce fait, nombreux sont ceux, touristes comme civils, qui se voient refuser l'accès aux sources thermales, entre autres. Car même si les mentalités tendent à changer et évoluer dans le bon sens, cette évolution dans les mentalités japonaises est très lente. En 2019, le tatouage s'est démocratisé et nous sommes nombreux à arborer fièrement nos tatouages, dans un but maintenant essentiellement esthétique, même si certains de nos tatouages ont tout de même une signification forte. Plus qu'une croyance, le tatouage est devenu un outil de différenciation au travers duquel chaque individu, quel qu'il soit, peut s'exprimer. Une démocratisation certes, mais avec tout de même son lot de critiques. D'ailleurs, je conseille l'ouvrage « Le tatouage, sociogénèse des normes esthétiques » de Lieven van de Kerkhove, qui traite parfaitement cet aspect. La démocratisation de cet univers est bien présente, puisque, depuis quelques années maintenant, on observe l'essor de nombreuses émissions de télévision consacrées à l'univers du tatouage, telles que Tattoo Cover ou Ink Master, dont le but premier est de faire découvrir au monde le travail exceptionnel de ces artistes renommés, artistes que l'on peut d'ailleurs retrouver dans les nombreuses conventions de tatouage, telles que le Mondial du tatouage, qui se tiendra à Paris les 13, 14 et 15 mars 2020. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci Mélissa.
Merci à toi Camille, tu es tatouée, non?
Oui.
Combien?
Une quinzaine.
D'accord. Bon, en tout cas, j'espère que cette émission vous aura plu. Vous pouvez dès à présent la réécouter sur le site de l'IUT, www.iut-littoral.fr, mais aussi sur le site de la web radio, www.radiogaco.fr. Merci beaucoup.
Merci. Ouais.